L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Notre histoire commence à Paris, au 291, boulevard Raspail, ce long cordon qui relie Saint-Germain-des-Prés à Montparnasse. Nous sommes en 1965, début avril, au Centre National du Cinéma. Un jeune réalisateur, encore inconnu, fait nerveusement les 100 pas pendant qu'on y projette son dernier film, Les Grands Moments. Il se nomme Claude Lelouch, 27 ans. Et pour lui, c'est aussi un grand moment. Car c'est ici, dans ce centre, que se réunit chaque année la commission chargée de choisir les films qui vont représenter la France au prochain Festival de Cannes. À l'époque, en effet, le célèbre festival n'est pas encore indépendant. Ce sont donc les États qui sélectionnent les films, ce qui leur permet d'exercer des pressions diplomatiques sur le jury. Claude Lelouch en est à son 6e film. Et on ne peut pas dire que, jusque-là, il ait brillé sur les écrans. Mais il a déjà un producteur, et non des moindres. Pierre Braunberger, qui est à ses côtés et tente de calmer son stress. Quand commence la projection, Lelouch croise les doigts, fumant cigarette sur cigarette. Il attend le verdict. Nous sommes le 23 mai 1965. Il est 21h15, et c'est l'heure H de notre histoire. La projection à peine terminée, un membre de la commission appelle Braunberger. « Comment avez-vous le culot de nous envoyer une merde pareille ? Toute l'équipe de la commission a détesté !» Lelouch s'écroule, KO debout. Il a l'impression de vivre sa fin de carrière dans le 7e art. Il est atterré. Son producteur aussi. Passé minuit, Braunberger l'entraîne dans un bistrot encore ouvert. Il pleut pour ne rien gâcher. Lelouch est blême, comme les lumières. Lui qui a mis tant de lui-même dans ce film, se voir ainsi mis au rebut. Et Pierre Braunberger en rajoute. « Vous savez, Claude, maintenant il faudra au moins une bonne dizaine d'années pour faire oublier ce film. » Il le prend par les épaules. « C'est pas la fin du monde, » ajoute-t-il. « Si, » répond Lelouch, qui commande un cava pour tenir le coup. Il sent que Braunberger l'abandonne. Le monde du cinéma est un cirque cruel. Dans cette nuit parisienne d'avril, Lelouch se retrouve donc seul. Du bistrot, il téléphone à sa compagne de l'époque, Jeannine Magnan. « Écoute, je vais pas rentrer cette nuit. J'ai de gros soucis avec le montage du film. Va dormir. » Dehors, la pluie a cessé, mais pas sa détresse. Tout ça ressemble à un mauvais film. Sa dernière réalisation refusée, lui-même bafouée, Lelouch se retrouve comme un paria avec l'impression d'être seul contre tous. Pourtant, d'habitude, il est pugnace. Il sait se battre. Mais ici, on s'en est trop. Jusqu'à présent, il a aligné les échecs. Cette fois, il se ramasse comme un boxeur blessé. Une nouvelle fois, il ne peut compter que sur lui-même. Le cinéma, il ne l'ignore pas, c'est d'abord une histoire de fric. Or, Lelouch n'a plus rien. Il n'a même plus rien à perdre, puisqu'il a tout perdu. Il est à deux doigts de déposer le bilan de sa société, les films 13. Son producteur le lâche. À 2h du matin, il est en faillite. La pluie a repris. Il l'écrira plus tard. « J'ai subitement eu envie de disparaître. Ce soir-là, si la mort venait frapper à ma porte d'une façon ou d'une autre, je ne suis pas assez courageux pour me suicider, mais l'idée m'a séduit. » Qu'a-t-il encore en poche? Ah oui, ses clés de voiture. C'est peut-être ça, sa sortie. D'habitude, quand il ne va pas bien, il fonce avec son automobile. Contact, essuie-glace, radio. Ah tiens, du jazz. Ah ça, il adore. Allez, va pour Take 5 de Dave Brubeck. Ça le consolera peut-être. Il emballe le moteur, s'élance dans le noir total, le noir en lui, le noir de la nuit. Par les tunnels, il est déjà en dehors de Paris. Que prendre comme direction ? Perdu dans son brouillard fantôme, il choisit une destination sentimentale, la Normandie, sa Normandie, celle de sa mère, celle de ses souvenirs d'enfance. Allez, va pour Deauville. Mais l'autoroute de l'Ouest ne fait encore que 30 km à l'époque. Il fonce rageusement sur les petites routes de campagne, à tombeau ouvert. Si j'y passe ce soir, pense-t-il, c'est pas grave. Si j'ai un accident après tout, j'ai pas encore d'enfant. Mon couple s'effiloche alors. Il pleut toujours. En roulant, il fait le bilan. C'est vrai, il a sorti 6 ratages. Pas d'excuses. La revue Les Cahiers du Cinéma a même publié ceci. Claude Lelouch, retenez bien ce nom. Vous n'en entendrez plus jamais parler. Où en est-il ? Un premier long métrage en 1960. Il en a détruit les copies. La vie de château, un an plus tard. Tournage stoppé, faute de crédit. Le propre de l'homme, une semaine dans les salles. Les grands moments ne sortira jamais, jugé insortable. Le reste, ce ne sont que des brouillons de films. C'est d'ailleurs pour une raison purement alimentaire qu'il s'est lancé dans le tournage des Scopitones. Et de ça, il en est fier. Les Scopitones, ce sont ces films qui passent dans les jukebox, les ancêtres des clips vidéo, des chansons mises en images. Rien que des tubes, bien sûr. Il en tourne parfois 3 par jour. Il en a réalisé des centaines. Il appelle ça faire des ménages. C'est là qu'il a appris à filmer rapide, efficace, inventif. À son actif, Diana de Paul Anka. Dès que le printemps revient de Hugo Frey, l'idole des jeunes de Hallyday, le jazz et la java de Nougaro, et puis les chats sauvages, Bardot, Petula Clark, Dalida, Sacha Distel, Sheila, Sylvie Vartan, etc. Bref, à peu près toutes les idoles yéyé, un véritable hit parade pour Salut les copains. Le tournage de Belle Belle Belle, ah là, il s'en souvient. Ce Claude François l'a marqué. Il l'a filmé dans la neige, en plein cœur du bois de Versailles. Ce mec androgyne était bondissant, bourré d'idées, inépuisable. Lelouch a eu l'impression de rencontrer plus fou que lui. Côté fille, il a gardé l'image délicieuse de Françoise Hardy, cette beauté longiligne et timide qui chantait « Tous les garçons et les filles ». Il y avait une balançoire dans le quartier. Il en a profité pour la cadrer dans le mouvement des balancelles. Elle était belle sous tous les angles. C'était comme une récréation. Bien entendu, comme les autres, elle chantait en playback. Ce qu'il a également appris avec ses Scopitones, c'est la force de la musique couplée à l'image. Il s'en souviendra, si bien sûr. Il persévère dans le cinéma. Il n'en est guère sûr cette nuit. Les souvenirs juvéniles des Scopitones s'effacent très vite avec un coup d'essuie-glace. Claude Lelouch fonce toujours, pied au plancher. Le moral aussi. Passé Honfleur, il pénètre dans sa Normandie. Une véritable bouffée d'enfance. Un bouquet de souvenirs qu'il cueille au passage, dans les pinceaux de ses phares. À Auberville, c'est le souvenir de son oncle, un personnage haut en couleur, amateur de Calvados. Villers-sur-Mer, c'est la modeste chambre d'hôtel que ses parents louaient pour les vacances. C'était pour le petit Claude la plage, la mer. C'était Deauville, mais en moins cher. Le dimanche, les Lelouch allaient se balader à Deauville. Ils allaient voir les riches, comme ils disaient. Lelouch se souvient surtout de la lumière. De vacances en vacances, a mûri en lui une fascination pour cette lumière, unique en France. Tous les climats en une seule journée. Chaud, soleil, froid, pluie. Ah, ce soleil impressionniste de Normandie. et cette transparence. Il est 3 heures du matin quand Lelouch arrive à Deauville. Et il se gare sur ce qu'on nomme ici les planches, face à la mer. Claude Lelouch vient donc de stopper son véhicule devant les planches de Deauville. Il a roulé comme un fol dingue pour fuir sa déception et son désarroi. Il ne peut plus aller plus loin. La mer lui barre la route. Il est épuisé, cassé par ce qu'il a subi la veille au soir, fatigué par les kilomètres dans la nuit. Il éteint le moteur, s'en mitoufle et s'endort. 3 heures plus tard, il est réveillé par un rayon de soleil qui traverse le pare-brise. 6 heures du matin. Il s'étire, ouvre sa portière. On ne peut pas dire qu'il fasse froid. Ça sent les vagues et le large. À gauche, la plage à marée basse est infinie. Elle s'éveille dans la grisaille. Mais à bien y regarder, il discerne 3 formes mouvantes. Une jeune femme, un enfant et un chien. L'enfant court, trébuche, le chien gambade. La femme est une mince silhouette. Elle paraît très belle. Ça, c'est l'homme qui parle. Mais peut-être est-ce grâce à la lumière. Une lumière de peintre. Ça, c'est le cinéaste qui parle. Et il se pose la question. Que fait cette femme sur cette plage à 6 heures du matin? Ça, c'est le scénariste qui s'interroge. Lelouch descend sur la plage. Il marche, marche encore vers eux. Au fur et à mesure qu'il s'approche, une idée lui vient. Imaginer et se raconter ce que cette femme fait là, si tôt, avec un chien et un enfant. Le destin de Lelouch est en route. Il ne prend toutefois pas le temps de marcher jusqu'à cette femme. Il s'arrête à 100 mètres de mètres d'elle. Il ne saura jamais si elle est belle ou pas. Il ne saura jamais qui elle est. Car en avançant vers cette silhouette, il commence à imaginer une histoire. Il revient soudain sur ses pas, sent qu'il doit écrire l'histoire de cette femme qui déambule sur cette plage de Deauville. C'est évident. Si elle était en couple, elle ne serait pas là toute seule à 6 heures du matin. Ou alors, elle s'est querellée avec son mari ou avec son amant. Ou elle l'attend. Peut-être est-elle veuve après tout. Dans sa voiture, il cherche. Pas de papier, pas de stylo. Il y a urgence. Un bistrot, oui, il lui faut un bistrot. À la gare, bah évidemment, bonne idée. Devant la gare de Deauville, il trouve un bistrot déjà ouvert. Il prend un café, demande un bloc de papier, regarde à travers la fenêtre. Le temps change, la pluie recommence, mais la lumière demeure sublime. C'est ce ciel qu'il veut mettre dans son histoire. Pendant 2 heures, il griffonne une histoire toute simple. Ce sera l'ébauche d'un homme et une femme. À quoi tient la vie? À la grisaille de Deauville, à la mer? À une inconnue. Une fois son scénario tracé, il repart vers Paris. Mais pas dans le même état d'esprit qu'à l'aller. Cette fois, il bouillonne, il s'impatiente. Il a une idée géniale. Il veut en parler à son producteur. Quand il rentre chez lui, il lui trouve une tête d'enterrement. Mais Lelouch lui raconte quand même son histoire. « Mais vous allez voir !» s'écrie-t-il. « Elle va nous faire oublier l'échec des beaux moments !» Mais c'est à nouveau la douche froide. Pierre Braunberger lui fait comprendre qu'il n'a nullement envie de produire un nouveau fiasco. Une histoire d'amour? Bon, écoutez, Claude, en ce moment, les histoires d'amour n'intéressent plus personne. Les gens, vous savez ce qu'ils veulent? Voir des polars. Alors, votre histoire d'amour n'a aucun intérêt. Et puis, franchement, elle est nulle. En sortant les épaules basses, Lelouch se répète. Nul, nul. Une histoire nulle. Peut-être que Braunberger a raison. Après tout, dit Lelouch, j'aurais dû être balayeur, comme me le conseillait mon instituteur face à mes résultats scolaires. Il va toutefois consulter un de ses amis, avec qui il écrit ses scénarios. Et lui, au moins, trouve son histoire palpitante. Lelouch reprend espoir. Et puis, tout va continuer. Une suite incroyable de petits miracles. Alors que deux jours auparavant, il se voyait fini, ou mort professionnellement, physiquement. Un coup de téléphone va l'encourager. Allô ? Allô, monsieur Trintignant ? Lui-même. C'est Claude Lelouch à l'appareil. Vous vous souvenez quand nous nous sommes croisés un jour ? Vous m'aviez avoué que vous aimeriez tourner avec moi. Exact. Eh bien, j'ai une histoire à vous raconter. Et il lui raconte au téléphone son histoire. L'homme s'appellera Jean-Louis Duroc. C'est un pilote automobile. Elle, Anne Gauthier, travaille dans le cinéma comme script. Ils sont tous les deux veufs. Ils ont connu la mort de près. Elle les hante. Cascadeur, le mari d'Anne, a été tué accidentellement, sous ses yeux, lors d'un tournage. Jean-Louis, lui, a été victime d'un très grave accident de course, suivi du suicide de son épouse, qui le croyait perdu. Anne et Jean-Louis se rencontrent par hasard à Deauville, où leurs enfants sont dans la même pension privée. Ils sont attirés l'un vers l'autre, mais Anne vit encore dans la mémoire de son mari, ce qui l'empêche de s'abandonner quand il se retrouve à l'hôtel Normandie. Toute la subtilité du scénario réside dans cette question. L'éclosion d'un nouvel amour est-elle possible quand on est encore hanté par ce genre de souvenirs ? Trintignant comprend que ce n'est pas une énième histoire d'amour. Lelouch veut prouver qu'une femme peut être fidèle dans la mort, fidèle à un souvenir, à une nostalgie. Il veut surtout montrer qu'il est très difficile de retomber amoureux après le décès de l'autre. Quand Anne a perdu son mari, elle en était follement éprise. Mort, il reste au sommet dans ses souvenirs. Pourtant, à un moment du scénario, Lelouch imagine une scène qui ressemble à la vie. Anne envoie à Jean-Louis un télégramme disant « Je vous aime ». C'est la vie qui a gagné. Contrairement à ce que pensent les détracteurs de Lelouch, cette histoire d'un homme et une femme est loin de s'apparenter à une guimauve sentimentale. Il y a de l'émotion, même parfois exacerbée. L'originalité du scénario réside dans le fait qu'il s'agit d'une histoire d'amour entre deux personnes qui ne croient plus en l'amour. Jean-Louis Trintignant trouve l'histoire formidable, simple, épurée. Il lui confirme sa participation. Il est séduit par ces personnages parce qu'ils sont sans artifice. Alors ça y est, Lelouch a son acteur principal. Il lui faut maintenant trouver une actrice à la hauteur de Trintignant. Son ami assistant et son épouse sont très proches de Romy Schneider. Ils organisent une rencontre. Romy s'avère trop actrice aux yeux de Lelouch. Il cherche presque une inconnue. Une interprète à laquelle les spectatrices vont pouvoir s'identifier. C'est Trintignant qui propose Anouk Aimée. Il a envie de tourner avec elle. Elle travaille en Italie avec Fellini. Trintignant avertit le réalisateur. C'est une actrice extraordinaire. Mais elle peut être difficile, compliquée. Lelouch va s'en rendre compte. Mais elle a un avantage. Au téléphone, Anouk dit oui tout de suite. Les dieux du cinéma se réveillent. Mais pour tourner un film, il faut des capitaux. Et nous savons où en est le compte en banque de Lelouch. Il réfléchit. Il pourrait demander à ses banquiers de repousser les échéances de ses remboursements. Il ferait alors un tournage qui ne lui coûterait pas trop cher. Il travaillerait avec son équipe réduite. et il produirait lui-même son film, puisque personne ne veut le faire. Oui, mais il lui faut quand même de la trésorerie pour démarrer. Et là encore, le vent tourne. Son ami assistant a vraiment de bonnes relations. Il connaît Félix Lévitan, le patron du Tour de France, qui veut un petit documentaire pour valoriser l'image de la compétition. Un film pas sur la course, mais sur la France traversée par les coureurs. Lelouch saute sur l'occasion. Il adore le Tour de France. Durant tout le mois de juillet, il suit la course en moto et en caméra libre. Excellent exercice pour le film qu'il va bientôt tourner. Le court-métrage pour un maillot jaune aura un énorme succès. Et Lelouch a surtout gagné assez pour enclencher le tournage de son « Un homme et une femme ». Il repousse ses traites et va produire son film. Le tournage est prévu pour décembre. 3 semaines, à Deauville, comme il se doit. Là où est née l'histoire. Il tournera avec la même équipe que pour les Scopitone et le Tour de France. Lelouch a promis à sa vedette Anouk Aimée d'aller la chercher et de la déposer à l'hôtel Normandie de Deauville. Il roule à l'époque avec la voiture que lui a donnée son producteur de Scopitone, Gérard Cyr, une splendide Mercedes décapotable. Celle-ci servira pour emmener la régie du film, transporter les acteurs, discuter avec eux entre deux prises. Pour l'heure, il conduit sous le charme de la belle actrice. Mais comme à son habitude, il roule très vite. Trop vite. Ce qui indispose sa passagère, qui lui demande de ralentir. Elle le fait toutes les 5 minutes. Parti à 200 à l'heure, on ne peut pas dire qu'il ait séduit l'actrice durant les 2 heures de trajet. Le soir, petit resto avec l'équipe et les deux vedettes. On parle de la première scène du lendemain. Une scène sur un bateau entre deux marées. Pourquoi ? Intervient Anouk. Il y a une scène sur un bateau ? Ah, moi je ne monte jamais sur un bateau. C'est à prendre ou à laisser. Trintignant avait raison. Elle n'est pas facile. Lelouch ne cède pas. Elle non plus. Toute la nuit, ils essaient d'appeler une autre actrice. En vain. Nouveau désarroi. Cette femme est si belle pourtant. Elle est lumineuse. Lelouch murmure à l'oreille de Trintignant. Dis donc, t'avais raison, hein, c'est une chieuse. Mais à 2 heures du matin, la dite chieuse téléphone au cinéaste. Claude, ça a très mal commencé entre nous. Mais faisons quand même un essai demain matin avec le bateau. On tourne une scène et je verrai si ça me plaît. Si cela ne vous plaît pas, on arrête. Si oui, on continue. Et le lendemain matin est magique. Anouk donne tout, se souvient Lelouch. Elle est royale. Je comprends qu'elle a besoin d'être aimée. Il lui faut des déclarations d'amour, c'est son moteur. Et Lelouch sait y faire. Il lui déclare son amour avec sa caméra. Il a compris pourquoi Jacques Prévert avait trouvé le pseudonyme de l'actrice, avec l'adjectif « aimé ». Et rassuré par l'amour que le regard de Lelouch lui porte, l'actrice lui fait le cadeau de son talent. C'est toutefois de Pierre Barou, qui joue son mari dans le film, que la belle Anouk tombera amoureuse lors du tournage. Ils s'épouseront au mois d'avril suivant. On pourrait d'ailleurs croire que Lelouch, lui aussi, tombe amoureux de son actrice. S'il la regarde à travers l'objectif de sa caméra, il la scrute aussi au microscope de ses fantasmes. Il se dit qu'elle est belle. Et quel sourire. La lumière, elle la capte. Il y a vraiment beaucoup d'amour sur ce tournage. Même la lumière de la côte fleurie est amoureuse. L'équipe est soudée. Tout s'accomplit merveilleusement dans un joyeux amateurisme. L'impresario des deux interprètes principaux a quand même exigé le versement des cachets avant le tournage. Il a refusé qu'ils soient payés en fonction des recettes du film. « Pas question », a-t-il affirmé, « d'accepter une participation de la part d'un mec qui sort de Cibide. Vous prenez vos 50 000 francs et retour à la maison. » Magnifique erreur de calcul. Trintignant se souvient du tournage. Ce fut une belle aventure. Le film a été tourné avec des moyens et un esprit amateur. Nous étions 6 ou 7 sur le plateau et chacun mettait la main à la pâte. Tantôt nous étions machinistes, tantôt nous portions des projecteurs. C'était du cinéma entre amis et cela me plaisait beaucoup. Nous avions vraiment l'image d'amateurs en train de s'amuser. En réalité, c'est du cinéma moderne sur un sujet très ancien. Durant ce tournage de Bonheur, Lelouch commence à croire en Dieu. Il le dit. J'étais juste son stagiaire, et c'était lui qui faisait le film. Les dieux du cinéma sont avec Lelouch, c'est évident. Le bulletin météo aussi. Quand il tourne la scène de la Ford Mustang de Trintignant sur la plage de Deauville, il retrouve la même lumière irisée de son souvenir, comme s'il marchait encore sur le sable de son inspiration. Mais c'est Lelouch, et non les dieux, qui va imposer sa manière de diriger ses acteurs. Phénoménal, pense Trintignant. D'ailleurs, pour le metteur en scène, il ne s'agit nullement de diriger. Trintignant découvre la manière inédite de Lelouch pour tirer le maximum de ses acteurs. Très souvent, ni Anouk, ni lui, ne connaissent les répliques ou les questions de l'autre. Ainsi, Lelouch prend Jean-Louis à part et lui dit « Puisque vous venez de vous rencontrer, tu vas lui parler de son mari, lui demander ce qu'il fait. Anouk ignore donc ce qu'il va lui demander et Trintignant ne sait pas ce que sa partenaire va lui répondre. » Ce jeu d'improvisation, de récréation du rôle, convient parfaitement à l'acteur. L'actrice est moins complice, moins généreuse, plus discrète. Elle est plus fermée sur elle-même. Mais cela finit par l'enrober de mystère et par lui donner une aura touchante. Cette liberté de dialogue fonctionne encore mieux avec les deux enfants. Dans les scènes où ils interviennent, ils ont une fraîcheur, une invention, un enthousiasme plus spontané que les adultes. Et comme Lelouch filme en toute liberté, il n'impose pas les déplacements à ses acteurs. Pas de traces sur le sol pour leur indiquer d'où ils partent et où ils doivent s'arrêter. Non. Non, tous les gestes sont spontanés. Ils sont inventés sur le moment. Trintignant apporte ainsi au film une énergie prodigieuse que Lelouch avouera-t-il. Ne rencontrera plus jamais dans ses autres films. Reste maintenant à filmer l'univers de son personnage masculin. Jean-Louis, dans le film, est pilote de circuit et de rallye. Lelouch s'est douté que ça plairait à l'acteur, qu'il accepterait plus volontiers de jouer dans le film. L'automobile est une de ses passions. Son oncle, Maurice, a été un des grands champions de son époque sur Ferrari, Lotus et Bugatti. Jean-Louis a commencé plus tard, à 40 ans, sur voiture de tourisme très améliorée, avec Beltoise et Lafitte. Il a couru les 24 heures du Mans, là où, au bout de la ligne droite des Hunaudières, on est à 350 km par heure. Puis, on négocie le virage très serré, à 60 km par heure. C'est là que Trintignant, en 1981, sera victime d'un grave accident, comme s'il redevenait son personnage d'un homme et une femme. Il a également couru 6 fois le rallye de Monte-Carlo. Et c'est lors de l'épreuve de janvier 1966 que Lelouch réalise l'autre partie de son film. L'acteur et son copilote, Henri Chemin, feront réellement la course. Mais Lelouch, lui, monte derrière et filme avec sa petite caméra 16 mm. Ballotté, le ventre serré par la vitesse. Il encaisse les virages pris à la corde, les trajectoires périlleuses, les glissades sur la neige. Il filme tout. Bien entendu, il n'a pas demandé à la direction de course l'autorisation de filmer dans la voiture. Pas plus qu'il n'avait l'accord de la municipalité de Deauville pour filmer la Ford Mustang numéro 184 de Trintignant qui slalome sur le sable de la plage. Avec ses maigres moyens et son matériel réduit, Lelouch passe inaperçu, s'insinue partout Comme dans la dernière scène du film, quand Trintignant attend Anouk Aimée qui va descendre du train à la gare Saint-Lazare. Lelouch est là, avec sa caméra, sur le quai, dans la foule. Une fois encore, il ne s'est pas préoccupé de solliciter le feu vert de la SNCF. Trois semaines de tournage, trois semaines de montage. Et l'apport de l'essentiel pour Lelouch, la musique de Francis Lai, qu'il a enregistrée avant de tourner son film. C'est un acteur essentiel pour lui. Cela s'est passé comme ça se passera à chaque film. Il va chez le musicien, lui raconte le film tout en marchant, lui demande d'écrire un type de musique par séquence. Quand il lui raconte une scène, il demande à son ami Francis de la lui raconter, mais cette fois avec des notes, avec des mélodies. Pour Lelouch, le film repose sur un inconscient, ce que la musique doit amplifier. Et puis, il y aura la mélodie, mythique, chantée par Nicole Croisy et Pierre Barou, qui fera un tube. Le montage, images et son terminés, Lelouch se retrouve à nouveau face à un épineux problème. Il lui faut un distributeur. On se souvient que le producteur, Pierre Brunberger, a refusé de produire le film. Il regardera distraitement le film monter. À sa sortie, Lelouch lui avoue « Je suis dans la merde. Si vous me donnez 200 000 francs, je vous cède 50% du film. » Refus de Brunberger. Heureusement. Une rencontre fortuite sur les Champs-Élysées va sauver Lelouch. Il croise le producteur Bob Hamon. Lui avoue qu'il a le couteau sous la gorge. Il doit rembourser ses traites. Il est à nouveau en faillite. Il ne sait vers qui se tourner. Les banques le boudent. Il n'a pas de distributeur. Bob Hamon, lui, a du flair. Il lui octroie 50 000 francs à condition de visionner le film. Quand il sort de la projection, il est en larmes. C'est le plus beau film que j'ai vu de ma vie. Il n'arrive même pas à canaliser ses émotions. Aussitôt, il appelle un ponte des artistes associés. En lui disant « Je viens de voir un chef-d'œuvre, il fera le tour du monde. Il bouleversera la terre entière, bien vite. » Le ponte déboule à la salle à 11h du soir. À 1h du matin, il ressort, lui aussi bouleversé. Entre 6h du soir, où Lelouch était en faillite, et 2h du matin, où on lui offre 500 000 dollars en minimum garanti, on peut dire qu'il a traversé un cauchemar. Le reste enflamme l'imagination. Le film passe à la commission pour défendre la France au Festival de Cannes en 1966. Il est accepté à l'unanimité. Lelouch croit que son cœur va exploser. Son téléphone n'arrête pas de sonner. Producteurs, distributeurs, journalistes, ils veulent tous voir le film. Les artistes associés déprogramment d'autres titres pour se centrer uniquement sur un homme et une femme. À Cannes, Lelouch assiste à l'enthousiasme du public lors de la projection. C'est même un peu trop de pression pour lui. Avec sa petite bande, il va se planquer dans un petit hôtel de Saint-Tropez. Ils ont beau entendre les rumeurs de Grand Prix, ils préfèrent ne pas y croire. Mais des reporters de Paris Match arrivent à les repérer. Ils veulent photographier Lelouch comme s'il venait de recevoir la nouvelle de sa victoire. Superstitieux, il refuse. Il veut bien faire semblant d'attendre les résultats, mais pas plus. Mais si Paris Match le traque, c'est que l'impossible est peut-être possible. Oui, il est même réel. Lelouch remporte le Grand Prix du Festival de Cannes. L'appellation Palme d'Or ayant été abandonnée entre 1964 et 1974. Jules Dassin et Mélina Mercouri sortent de la salle émus et prennent Claude Lelouch dans leurs bras en pleurant. En France, un homme et une femme va afficher complet dès la première semaine. Il restera à l'affiche un an. Le film échappe même aux attentes de Lelouch. À Cannes, à part le Grand Prix, il obtient le prix de l'Office catholique du cinéma et celui de la Commission supérieure technique du cinéma pour la photographie. En 1967, il sera récompensé aux Oscars américains comme meilleur film étranger et pour le meilleur scénario. Toujours aux États-Unis, Lelouch reçoit le Golden Globe pour le meilleur film étranger, avec un autre Golden Globe pour Anouk Aimée, meilleure actrice. En tout, 39 autres récompenses internationales. Le film aura même un impact sur le tourisme en Normandie. Dès sa sortie jusqu'à aujourd'hui, de nombreux visiteurs séjournent à Deauville grâce au film. Ils veulent faire coïncider les images de Lelouch et la musique de Francis Lai avec la plage et les planches de la station à la mode. Ils veulent surtout découvrir Deauville, non pas à la période estivale, mais en hiver, comme dans le film. La ville dans le gris devient une destination romantique. Des couples viennent y jouer le même rôle que les interprètes sur la plage. On baptisera Place Lelouch, l'endroit où, face à la mer, le réalisateur a promené sa caméra à l'hiver 1965. Beaucoup de séducteurs qui voudront faire rêver une fille l'embarqueront en Porsche ou en deux chevaux pour un week-end à Deauville. Et quand les vedettes viendront plus tard au Festival du cinéma américain de Deauville, elles auront un repère, la ville où a été tourné le célèbre film. Car un homme et une femme aura un succès planétaire. 4,2 millions de spectateurs en France, 36 millions dans le monde. 2h27 de tendresse et de bonheur pour tous les publics. Certes, il y aura des partisans et des détracteurs. On aimera ou on détestera, on condamnera même. Mais des millions de gens chanteront la bande originale du film. Beaucoup reconnaîtront que Lelouch a réinventé la plus vieille histoire du monde. Un homme et une femme, quoi de plus banal. Mais avec sa jeunesse, son lyrisme et sa liberté de filmer, Lelouch a effacé les poncifs. Et la rédactrice du magazine Elle aura raison de rappeler dans son article que Balzac avait raté 25 romans avant d'écrire Les Chouans. Le cinéaste est comblé. Gagner à Cannes, c'est la manne exceptionnelle en termes de notoriété, de distribution internationale et donc de recettes. Maintenant, il pourrait pousser la porte de n'importe quel producteur et lui proposer l'histoire d'un type qui dit bonjour. Le producteur lui répondrait « Mais c'est génial, combien ?» Lelouch, désormais, peut croire en sa bonne étoile. Et il va enchaîner les films, certains dispensables et d'autres qui seront des réussites exceptionnelles, comme « Vivre pour vivre » avec Montand et Girardot. Le désopilant « L'aventure, c'est l'aventure ». Les uns et les autres, avec Jorg Edon, dansant le boléro, ou encore Itinéraire d'un enfant gâté, avec Belmondo. Il a désormais son avenir en main, mais il n'a qu'un seul regret. Il ne saura jamais qui était cette femme qui se promenait à 6h du matin sur la plage vide de Deauville. Il lui a donné une vie qui n'était peut-être pas la sienne. Suite au succès mondial du film, le réalisateur essaiera de lancer un appel sur les médias pour la retrouver, la connaître, la remercier. Mettre un visage sur ce qui ne fut qu'une silhouette dans la grisaille d'un petit matin, mais en vain. Voilà pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Michel Carli et à la collaboration des équipes de LDV Productions.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.